Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te ayuda a vivir, allora fate qualcos'altro.
Şiir yaşamınıza yardımcı olmuyorsa, başka bir şey yapın.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Arbatz et compagnie, tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois de 20h à 21h sur Radio Clapas. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Claude Maurice, Florence Mouriras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanck, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Bonsoir, nous sommes ici au Grain des Mots, à la librairie du Grain des Mots à Montpellier, pour l'enregistrement de cette émission en public devant, je dirais, entre 40 et 160 personnes à peu près. D'ailleurs, je vais leur demander de se manifester pour prouver que ça n'est pas une fausse émission en direct. Oui, ah, ça. J'ai eu un moment d'angoisse et un grand silence. Donc, c'était aussi pour fêter la sortie des œuvres complètes de Léo Ferré. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Oui, on peut le dire.
Une anthologie
de textes de Léo Ferré qui s'appelle « Les chants de la fureur ». Et évidemment, c'était une émission aussi qui a été faite grâce à la collaboration et le soutien de la librairie du Grain des Mots et de l'association des Amis du Grain des Mots. Voilà. Donc, on va parcourir la vie de Léo Ferré, mais auparavant, on va commencer par lui laisser la parole avec la préface. C'est le meilleur titre qu'on pouvait trouver pour ouvrir l'émission.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du besme. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le besme qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat.
Voilà, ça fait du bien d'entendre ça. C'est un petit peu notre profession de foi. Et on a à côté de nous, pour aujourd'hui, exceptionnellement pour présenter cette émission, Claude Frigara, qui a été ami de Léo Ferré depuis les années 80, je crois, et qui a sorti un livre d'entretien avec lui. Donc c'est à lui qu'on a laissé le soin de nous parler de la vie de Léo. Donc Claude, commençons par le début. Où, comment, d'où est venu Léo Ferré?
Du ventre de sa mère, apparemment, hein, sûrement. Le 24 août 1916, à Monaco, d'une mère d'origine italienne, d'un père monégasque. Charlotte Scotto, c'était la mère de Léo, et puis l'appartement qui est toujours à la famille, qui appartient toujours à la famille Ferré. C'est un petit appartement qui s'appelle Villa les Œillets, mais c'est un petit appartement dans un petit immeuble de deux étages sur l'avenue Saint-Michel à Monaco.
Et ils font quoi les parents?
Alors, quel milieu? Son père est directeur, enfin il a fini sa carrière directeur du personnel du casino de Monte Carlo. Et il faut savoir, c'était quelqu'un d'assez raide, disons, qui a eu quelques problèmes avec Léo. C'est plutôt Léo qui avait des problèmes avec lui, disons. Il s'est
très religieux, je crois.
Très religieux. Il était, j'ai oublié le nom de la fédération, une confédération chrétienne. Évidemment, il n'a pas trop apprécié quand son fils s'est lancé dans ce métier de saltimbanque, et qui plus est, quand il a commis des chansons du style Graine d'ananas et puis Monsieur Tout Blanc.
Mais même auparavant, enfin tout petit, il y a le fait que Léo est placé dans une institution.
Alors d'entrée, Léo, on l'envoie au collège des frères des écoles chrétiennes à Bordighera, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la frontière italienne. Et là, pendant 8 ans, il est enfermé. Il revient chez lui très peu, sa mère va le voir.
Il dit d'ailleurs, il y a cette petite anecdote que tu m'as racontée, quand sa mère amène Léo chez les frères, donc elle dit, voici Léo Ferré, et le père répond, non, c'est Léo 38, voilà, désormais.
Léo racontait ça souvent dans ses concerts, les concerts des années 80 jusqu'à 90, qui duraient 2h30. Il s'accompagnait au piano en disant le texte de la solitude, et puis il entrecoupait ce texte par la relation de son enfance. Et effectivement, ça l'a avait marqué quand sa mère lui a dit « Je vous amène Léo Ferré ».« Non, madame, Léo 38 !» Bon, et ce 38, il l'a porté comme d'autres... Il y en avait d'autres qui s'appelaient 68, par exemple. Et Léo aimait bien ajouter « Celui qui s'appelait 68, il était particulièrement con, donc il n'y avait pas de prédestination. Bon. »
J'ai lu un tout petit extrait de la biographie que Maurice Froy écrit. « 8 ans de foot obligatoire, 8 ans de genoux à terre, mais si loin des turlutènes, l'animal, jusqu'à lire Voltaire planqué dans son missel, avec le don de ne pas être là, de sourire sa vie en dedans, 8 ans qui l'ont préparé, armé, cuirassé pour la fête de la liberté. »
Ouais, voilà. Parce que c'était pas rigolo, hein, comme il le disait, son enfance n'a pas été heureuse, hein, il s'en cachait pas. Sûrement, ce qu'il a peut-être le plus marqué, c'est qu'il n'en parlait pas, mais c'est peut-être aussi, ceci explique peut-être cela, il a fallu attendre la publication de son seul et unique roman, qui s'appelle Benoît Misère, et qui en fait raconte son enfance. Et on y voit des prêtres, et on n'est pas surpris, hein, ni aujourd'hui ni il y a des années, que ces prêtres, notamment un, se soient livrés à des attouchements sur lui. Donc c'est quelque chose qui l'a meurtri, qui l'a marqué.
Et comment il rencontre la musique? Parce que c'est une présence très importante, très très tôt dans sa vie, ça.
Il aimait raconter qu'une fois, tout petit, vers 8-9 ans, il disait qu'il dirigeait des orchestres imaginaires sur les remparts de Monaco. Il avait cette attirance pour les sons, pour la musique. Il battait des mains et il imaginait différents instruments devant lui à qui il donnait la mesure. Mais la grande révélation, il aimait à le raconter, c'est une fois qu'un jour que sa mère est venue le voir à Bordighera, qu'elle l'a amené en face du collège et que dans une petite pâtisserie, à ce moment-là, la radio diffusait la cinquième de Beethoven. Et il s'est mis à pleurer, il s'est mis instinctivement à pleurer. Parce qu'il disait que quand il a découvert qu'il était poète et musicien, étant enfant, il en a eu honte. Il a eu honte parce que ça ne correspondait pas à son milieu, il ne savait pas comment exprimer ça, et il pensait que c'était quelque chose qu'il fallait cacher, puisque personne n'en parlait. Donc le jour où il entend ça, sa mère qui le voit pleurer lui demande qu'est-ce qui lui arrive et il dit c'est parce que tu vas partir maman. Mais en fait il dit je lui ai menti, c'est parce que j'ai été subjugué par la musique qui sortait du poste.
J'écoutais de la musique vivante, je mettais ma petite pèlerine et j'allais à l'église de Monaco où je faisais partie de la chorale. Mon oncle étant secrétaire du théâtre du Casino de Monte-Carlo, ma mère m'y amenait au concert, parfois aux répétitions. C'est au cours de l'une d'elles, le concerto pour la main gauche, que j'ai vu Ravel en personne, pas plus grand que moi, j'avais 15 ans, à deux pas de moi, il m'a souri, j'aurais dû aller lui parler, je suis sûr qu'il m'aurait embrassé.
Il a rencontré aussi Toscanini. Et il a suivi aussi des cours hein, de piano à Nice, mais bon, il ne s'est jamais trop expliqué là-dessus. Il a simplement dit qu'il était, pour l'essentiel, il était parfaitement autodidacte.
On va peut-être s'arrêter là, juste signaler qu'il n'est pas seul, enfin qu'il dans sa famille, il y a aussi une sœur, je crois une sœur aînée qui s'appelle Lulu.
Alors sa sœur, elle a appris l'art dentaire, disons, elle n'a jamais exercé, mais elle est allée à la fac pour être dentiste et elle a entraîné, au début elle a entraîné, ou sa famille a fait que Léo s'est inscrit dans les pas de sa sœur, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il était en stage et puis... dans un cabinet de dentiste, et puis il a injecté un produit qu'il ne fallait pas, mais dans l'œil d'un patient. Et donc, son destin de dentiste s'est arrêté là. Quant à sa sœur, elle a rencontré un pharmacien qu'elle a épousé. Ils sont partis du côté de Moulins, dans l'Allier, là, et elle n'a jamais exercé non plus. Donc ça, c'était une voie qu'il n'a pas suivie. Dans la famille, il y a quelqu'un qui l'a beaucoup marqué, c'était un oncle, qui était cocher de fiacre. Et ça reviendra aussi souvent dans l'inspiration de Léo. Il évoquera souvent son amour des chevaux. Et il disait, comme l'avait dit Nietzsche aussi, il disait qu'il y a quelque chose qu'il ne supportait pas, c'est qu'on fasse du mal aux chevaux, qu'on les brutalise, notamment pour s'en servir.
On retrouvera cet amour des bêtes plus tard dans l'émission. En attendant, on laisse la parole à Marc qui va nous dire un texte qui s'appelle « L'enfance » tout simplement.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis. Et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas, le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et la plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi, l'enfance. C'est le paradis dans du cambouis, c'est les caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui, l'enfance. C'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue, l'enfance. L'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé, l'enfance. Souviens-toi des frangines qui avaient même pas 10 piges, dans la nuit retrouvée on jouait à se faire la pige. Même qu'elles étaient girondes avec leurs yeux barrés, juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors, et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là, et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons. C'est le remords de la raison, c'est la folie aussi, l'enfance. C'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit, l'enfance. C'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté, l'enfance. L'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre, et vers la proie et vers le nombre, c'est apprendre à frapper, l'enfance. Souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. qui tournait.
Je laisse à mon père Joseph deux portugaises à chanson, un pot sonnant de l'ultrason, des chauves-souris plein son chef. Je lui laisse aussi le quibus qu'Onassis fourre dans ses fouilles, dans le casin où l'on ne douille qu'au hasard casqué de gibus. Pour Charlotte Ferré, voici des ciseaux grands comme l'été à tailler dans la Voie lactée, des patrons d'étoiles et de nuit, un verrou tout grouillant de clés. Et sous son lit, un dromadaire, en train de lire son bréviaire, et maman lui faisait du pied. À Lulu, Bergeron, ma sœur, un crâne, avec toutes ses dents plantées selon le règlement de la tour d'Auvergne, et d'ailleurs, une fraise à sucrer dedans tout le savoir de la denture et les vers de mon écriture sur son davier se balançant. Un bout de Paris, 37, Monsieur le Prince et l'Excelsior, ses copains qui couchaient dehors dans la nuit bleue des piques-fillettes, tamponnés à son passeport, une aspirine d'Italie avec mon cœur en broderie, la Nationale 7 dehors. À Vosgien, le tout bibeau chien, je laisse un poil de mes amis, à l'y chatouiller le kiki, les soirs mauves d'anciens copains, je lui donne un kilo de spread, pour qu'il mette à neuf la surtaxe qui progressivement le taxe chaque année que fait Mohamed.
Faire son testament phonographe, comme l'avait titré Léo, ce n'est pas s'apprêter à mourir, hein, puisqu'il l'a fait, il l'a écrit dans les années 70. Il adresse ce poème, testament phonographe, à beaucoup de gens qu'il a connus, qui sont soit de sa famille, comme on vient de l'entendre là quand il évoque sa sœur Lulu Bergeron, soit des gens du métier qu'il a connus. On peut y côtoyer Lucien Maurice, on peut y côtoyer Louise de Villemorin,
Maurice Fro, comme ça,
Maurice Fro, qui fut son secrétaire, son ami, son garde du corps, tout ce qu'on veut, pendant des années. Donc ces testaments phonographes dont on vient d'entendre un extrait.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe, on le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand lavait des odeurs du jour le jardinet derrière la maison, en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, aux thés bleus, âcrement prises d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrue. Et pressentant violemment
Arthur Rimbaud, Les poètes de ces temps chantés par Léo Ferré, dont on évoque la vie ce soir dans cette émission en direct au Grain des mots. On va essayer d'évoquer très très brièvement maintenant la montée à Paris, enfin l'adolescence et les années de jeunesse de Léo.
Oui, Léo s'échappe donc de Monaco parce qu'effectivement entre le cocon familial et puis l'expérience vécue dans l'enfance, il a besoin d'air et en même temps il est toujours un peu sur les rails que lui impose un peu la famille. Donc à l'époque et bien plus tard aussi, c'était bien vu de faire son droit. Donc 2 ans, 1 an ou 2 après avoir passé les 2 parties du bac, hein, puisque c'était comme ça à l'époque, c'est-à-dire on est en 1935, il monte à Paris, il s'inscrit à la fac de droit et de Sciences Po. C'est intéressant de remarquer qu'il a été dans la même promo que Mitterrand, mais ils ne se sont pas connus à Sciences Po. Par certains disent, et puis il n'a pas démenti, qu'on a vu des fois Léo distribuer des tracts comment il s'appelait là, les Camelots du Roi. Les Camelots du Roi, c'était un groupe monarchiste.
Monarchiste.
Oui. Bon, ah ouais, c'est pas pareil. Allez. Bon, mais c'était un petit passage. Et ce qui est certain, c'est que Léo, à Paris, il en profite pour respirer. Il va au music hall, beaucoup.
Il voit Trainer, Chevalier.
Il va beaucoup au cinéma. Alors, c'est la grande époque, Gabin, avant la guerre. Et puis, il ne s'intéresse pas du tout au Front Populaire. Ça, il a reconnu. Alors, je ne sais pas si ça avait à voir avec ses idées politiques. En fait, il n'en avait pas spécialement. Assez vite, hein, ces 2-3 ans, là, avant que la guerre arrive et que la mobilisation également arrive.
Marc.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfance et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes, comme le trémail de juillet, où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller aux doigts de sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là, avec ses poumons de flanelle, quand il pleure de ces temps-là le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas, et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux au ras des rocs qui se consument. Ô l'ange des plaisirs perdus, ô rumeur d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin dans ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse. Reviens, fille verte des fjords, reviens, violon des violonades, dans le port fanfare les corps pour le retour des camarades. Ô parfum rare des salants, dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul, poissé dans des draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus, et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants, sous les sunlights cassés liquides, jouent de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide. Dieu de granit, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue sur cette mer jamais étale d'où me remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent, cette rumeur me suit longtemps comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sous mon maquillage roux, s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini. Sur la plage, le sable belle, comme des moutons d'infini, quand la mer bergère m'appelle.
Mr. The Wind. Un coup de vent, Mr. The Wind. Un coup de vent, please. Que de voiles dehors quand vous crevez les cieux. Que de fleurs arrachées sous votre grand couteau. Que d'oiseaux caressés sous votre peigne bleue. Que de robes trouées au fil de vos ciseaux. Que d'amour réchauffé quand vous montez du sud. Que d'amoureux transis quand vous chantez le nord. Que de marins têtus au fond des mers du sud les soirs où vous gueulez leurs chansons sur le port. Mr. The Wind, et vos balais de soie comme des violoncelles. Quand il pleuvra des cons, vous nous mettrez des ailes. Moi, ce que je te donne n'appartient qu'aux couleurs, aux oiseaux de la nuit, quand la nuit te fait femme, au vent qui reverdit sous l'arche de la peur, à la mer qui rougit et qui fourbit ses armes, aux marins qui ressemblent aux enfants de la mer, à cette herbe exaucée qu'on dit du pain des hommes, à la dune qui croit que le sable s'étale alors qu'il n'appartient qu'aux amants qui l'effacent. Aux chansons de ces ports où l'on ne va jamais, aux ombres dans le soir qui se prennent pour toi, aux passions des insectes dans les slots de l'été, aux raisons de l'amour que les fous te proposent, au rien qui te fait toi quand tu ne crois en rien, à ces chants de la nuit, à l'agonie des choses, à l'ombre que j'emploie à tant illuminer, au mal qui fout sa gueule au fond d'un poudrier. Un coup de vent, Mr. The Wind, un coup de vent, please. Que de maisons trahies sous les lampes néons, que de rues décapées à l'acide des jours, que de flics épaulés par des lois à la con, que de cons étoilés au cuivre de l'amour, que de vies en allées dans les babels du bruit, que de musique tue dans le bruit des paroles, que de pays perdus dans le bonheur appris, que de cœurs hibernés pour que rien ne s'envole. Un coup de vent, Mr. The Wind, un coup de vent, please.
À Clo-Clo, la rousse putain de mes sept berges bien sonnées, elle en avait neuf dans le dé. Je laisse le doigt de ma main. Il me remonte des naseaux le parfum mauve de sa paille qui bruissait plus bas que sa taille quand je jouais de son pipeau. Je lui laisse aussi le raisin qu'on écrasait avec nos pieds, moi, plus bas qu'elle, ensanglanté à regarder son maroquin. Ses deux jambes comme un delta, je m'enivrais à sa bouteille. Comme un nageur vers la merveille, je nageais longtemps dans ses bras.
Rosella noire du drapeau, baissée sur ton triangle blanc, prends mon algèbre entre tes dents et compose mon numéro. Ô toi que j'eusse tant creusé sur le lit de ta maternelle, qui t'étouffait pas de dentelle, je te laisse mon sabre usé. À Margit, les nerfs noués sur le goudron comme une croix, quand il bavait de son minois de la chantilly salivée, je laisse un buvard de chagrin pour s'effacer dans l'ombre oblique que sèment les épileptiques, comme un semeur sème son grain. À Maritorne, des sconces, à la Fernande aux mains poissons, qui reprise les caleçons des anges, qui la nuit défonce l'X de mon idiote en blond, je laisse un rasoir électrique pour se peler le sens unique et se ravauder les cuissons. À son régule, Joe du Denier, mon beau daron de le temps de l'ex, et qui me mettait à l'index au fond d'un lit, mort à moitié, je laisse sa fille empaffée par quelqu'un d'obscur, par quelque obscur de la cervelle, sa fille qui lui dit pucelle dans un bordel, le cul bordé. Et celle-là, n'y touche en toc, qui jouait les planches d'amour où j'accrochais tous mes discours, si endurants dans mon paddock, qu'elle est un requiem en stuc, montant triste d'une guitare, qu'elle enjambera, c'est notoire, comme un bidet qui joue du truc.
En même temps que vos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Y'en a marre. Chagrin, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Y'en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous ôterons compte vos secondes. Y'en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Il y en a marre. Il y a quelque temps, Monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Il y en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Il y en a marre. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait la lune pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et y'en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous ont fait les étoiles pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait les hommes pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Il y en a marre. Il y en a marre. On vit, on mange et puis l'on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Il y en a marre. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fatio, la société c'est pas de la tarte. Et on a marre, mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Et on a marre. Et on a
Annick Cizarruc chantait « Y en a marre ». On va reprendre le cours de la vie de Léo. La guerre arrive.
On est en septembre 1939 et mobilisation générale. qui durera jusqu'en août 40, en fait. Il sera démobilisé de fait, c'est le cas de le dire, parce qu'il n'y a pas eu de papier fait à ce moment-là, mais c'était la débâcle qu'on connaît. Et Léo, figurez-vous qu'il a fait quelques mois pendant son service militaire, donc, et il ne se cachait pas pour le dire, et quand dans le public ça réagissait, on disait, bah ouais, mon vieux, qu'est-ce que tu veux, je l'ai fait aussi. Hein. Et donc, il était à Montpellier, à la caserne Le Pic, pendant quelques mois, et puis quelques mois aussi à cette caserne Vauban. Alors, ils en profitaient surtout avec son copain Maurice Angéli pour partir en fosse, pour faire le mur. Enfin, ils prenaient le petit train de Palavas, des fois, ils se rappelaient ça, qu'ils allaient se baigner à Palavas. Mais à 7, comme ils étaient pas loin de la gare, ils prenaient le train en fosse, et puis ils rentraient à Monaco, dans la famille. Et Léo a poussé le vice militaire jusqu'à aller, en début 40, à l'école de sous-officiers de Saint-Mexant. Et il a dirigé, entre guillemets, un petit escadron de tirailleurs sénégalais.
Ah ouais. Maurice Faure raconte une petite anecdote où il aurait même menacé un tirailleur sénégalais trop récalcitrant de son pistolet et on l'aurait ramené à l'ordre, quoi. Il s'en cachait pas, en tout cas. Et donc, il rencontre aussi, on en a parlé déjà de René Baer, ce poète, oui. Hein, qu'on a mentionné dans un micro précédent.
Qui le présente à Valberg, qui était un orchestrateur, chef d'orchestre et arrangeur, comme on disait peut-être pas à l'époque, qui a beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes, Beco, et puis plein de Trainé, plein d'autres. Et donc, il le présente à Léo Ferré, à Monaco, toujours, qui vraiment est une pépinière. Hein. Il y a beaucoup de gens qui allaient là-bas. D'abord parce que les fascistes italiens qui occupaient la ville, c'était pas du même ordre que les nazis. Ça conduisait aux mêmes effets, mais pas de la même manière. Et donc Léo, à cette époque-là, à Monaco, il a aidé à cacher des juifs aussi. Ça, il n'en parlait pas beaucoup, mais il a refusé d'aider des juifs pour de l'argent. Il l'a fait très discrètement. Il les a aidés très discrètement.
Et puis, il y a un événement très important, c'est quand même qu'il tombe amoureux.
Alors, il tombe amoureux d'une Odette Schunk, qui était, d'après Maurice Angéli, son amie d'enfance et de 60 ans d'amitié. Plus belle que Madeleine Sologne. Alors, c'est une référence pour l'époque, Madeleine Sologne. Ça durera pas longtemps. Il l'épouse en 1943. Et il y a quelque chose qui... Bon, ça durera pas longtemps. Il écrira La vie d'artiste, sûrement en pensant à elle, pour dire toute la défaite qu'il pouvait y avoir à un moment donné dans le couple entre un artiste et puis quelqu'un qui l'était pas. Même s'il a essayé de lui apprendre des poèmes, et puis avec elle, d'aller au-dessus de Monaco, vers la Turbie, là, d'aller dire des poèmes dans des petits cabarets. Une anecdote, mais on ne peut pas toutes les raconter. Il va à vélo de Monaco à Albi pour voir sa promise. Il s'arrête, on ne sait pas trop où, dans la campagne évidemment. Il fait pas ça d'une traite. Et la nuit, il fait très froid. Il aimait raconter qu'il y avait des chiens qui s'étaient mis sur lui pour le tenir chaud. Cette relation, je dis ça parce que cette relation de Léo avec les animaux, c'est très, très important. Une fois au retour d'Albi, il s'arrête à Montpellier, toujours. Parce que Charles Trenet passe à l'opéra et il assiste au spectacle, et puis à la fin il va voir Trenet en lui demandant s'il peut lui présenter deux ou trois de ses chansons, et Trenet accepte. Et Léo se met au piano, les lui chante, et Trenet lui dit: c'est pas mal ce que vous faites, mais croyez-moi, jamais vous ne chanterez vos chansons.
On peut dire aussi qu'il se rapproche des milieux de la chanson un petit peu, et aussi par le biais de Radio Monte Carlo.
Ouais, il rentre à RMC un peu, il a fait un peu tout, hein, il a balayé les studios, il était standardiste, il a fait un peu de technique, mais enfin, comme il disait, les radios à l'époque c'était pas comme maintenant. Hein. Et surtout, il a rencontré, toujours à Monaco, il a rencontré Piaf. Et donc Piaf, elle a fait comme elle a fait pour beaucoup de gens, elle lui a dit, mais il faut aller à Paris, il faut monter à Paris, parce que c'est là que tout se passe. Et donc on arrive là, bon, entre-temps, il a laissé tomber Sciences Po, il n'est pas allé bien loin, il a fait un peu de droit, mais ça, il avait vraiment le sentiment qu'il voulait vivre de la musique. Et il a commencé à écrire des textes avec l'idée de les placer, quoi. Chez des éditeurs, et que quelqu'un d'autre, que d'autres chanteurs les prennent.
Et puis Piaf, oui, Piaf l'avait pas tellement. Une chanson, c'était Piaf qui réclamait à tous les gens qui passaient une chanson. Donc voilà. Il en a fait une, vous aussi, pour elle.
Alors il en a fait une, ça c'est en 46, à la fin de l'occupation, avec Odette, il remonte à Paris et il s'arrête toujours chez l'inévitable Maurice Angéli, qui était lyonnais. Il s'arrête chez lui et dans la soirée, il écrit Les Amants de Paris. Au départ, c'était Les Amants de Lyon, faut dire. Et puis il arrive à Paris, il reste un peu et puis il va voir Piaf. Il transforme la chanson. Et c'est la seule chanson que Piaf chantera. Il y a d'ailleurs une version récemment qui a été diffusée sur France Musique, une version enregistrée à New York par Piaf, qui est beaucoup plus extraordinaire que celle qu'on connaît, qui est gravée, quoi. Les Amants de Paris.
Si tu veux, tu es neuve.
Si tu veux, tu es neuve. Si tu veux, tu es la seule neuve au monde. Et il y en a des tonnes tous les jours qui déversent leur joie dans les forêts mystères, dans les forêts nylon de vos vergues signées. Je te signe et me signe, je te vois, je te prie, je te donne cette violette ancienne et de 2 heures qui va mourir peut-être et qui va s'extasier dans le creux de ta main. À la joie ce matin, tu avais un pardon de ceux qui ne t'ont pas. Juste un peu de velours dans ta crème et puis du brun, de l'ocre de nos nuits dans les draps que l'amour referme sur la nuit. Tous les amants du monde ont l'œil d'extra-saison. Viens, viens, viens mon objet de misère, ouvre-toi Byzantine et sucre tes amants. Je voyais les amants, ceux des golfs et des bras venus d'on ne sait où, ceux des comètes supermarchés, là où l'on vend la paresse et la mort aussi, quand on s'y laisse, et la tristesse. Dessous pour ta tristesse, que je vois comment c'est. Donne-moi ta tristesse et je la parerai et je la sauverai. Je la mettrai bien de côté pour les jours de gloire et d'aventure, quand tu me diras « viens », quand je t'en materai. Ô ma frégate des ponts tristes à Paris avant-guerre. Et après, et demain. Demain Paris prendra la gueule des amants, on s'aimera profondément dans ces eaux glauques. Et des noyés, ces noyés, dis donc, prends-les dans la gorge d'en bas pour mieux sentir, pour mieux te prendre l'évidence dans les bas-fonds. Dans les draps que l'amour referme sur la nuit, tous les amants du monde ont des hautbois métal qui leur jouent les cadences du jazz sous la peau. Un jazz qui s'en revient du bout de notre vie, celle où la mort s'étale en un jet de prière sous la lampe solaire à cheveux de fanal, au manchon dans le cul comme une révérence, parfum d'oubli, un soir dans un siècle d'odeur, odeur, odeur, odeur glissant sur les rivières, ô pollution d'or pur inventée au désert, dans les après-midi mini aux lunes rédemptrices. Donne-moi tes jardins, que j'y plisse, que j'y dorme et m'y dors au fond de ta matrice. Ouvre-moi ta guirlande et enveloppe-m'en, alors tu seras neuve, tu seras la seule neuve au monde.
Ô Nietzsche agrippé, naseau de Turin, ce fiacre roulant dans le fantastique et la folie te prenant par la main, j'entends dans la rue une hypomusique. Ô Nietzsche, l'entends-tu? C'est du chagrin, avec le mort au cœur, c'est une clique. Et ces tambours voilés frappent le temps sur le pavé des cours et de ta gloire, avec des chevaux se remémorant, avec des chevaux à l'avoine noire, mâchant de la mort le sourire aux dents, ses dents comme des trous dans la mémoire. Et sur la treille aux grappes de velours, je millésime un cru de couturière, un porteau de dentelle au creux du jour. Sur le chemin d'enfer, je fais la guerre aux standards accueillis au tambour, à ceux qui n'ont jamais l'âme légère. Or, j'allais par les champs, l'épouvantail me fit des signes, et j'allais droit à l'ombre comme inscrite au fusain sur un vitrail. J'avais l'air d'un corbeau, comme lui, sombre, et m'étonnais qu'un si pauvre attirail en croix trouée pût remplacer le nombre. Hé, mon corbeau, que dis-tu de ma trogne? Comment, me dis-je, lui, si près de moi? Et il n'attend même pas qu'on y cogne? L'échine ravaudée, avec les doigts qui tricotent la peur sous la besogne, les gens gagnent le grain que je leur dois. Comment t'appelles-tu, fripier des brumes? Je m'appelle l'ennui. De mon perchoir, je contrôle la nuit quand on l'allume. Je fais les rêves gris, les propos noirs. Je suis un astre éteint qui se consume, un professeur qui ferait ses devoirs. Un jardin où la rose n'a pas d'âme, met l'épine aux côtés pour s'en aller, les soirs de mai quand le rose l'enflamme. Je suis un vieux poisson désespéré, une tête d'oiseau dans une femme, avec mon bec dans son miroir gelé. J'ai vu dans la craie d'incroyables X, avec des chapeaux de lune et de vent, et poétisant des savants prolixes. J'ai la mathématique du divan, et quand tu vas dormir pour toi, je mixe le bonheur et la mort qui va devant, avec le jour au bout comme un suffixe.
Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes comme la rose du matin, thank you, Satan. Pour les étoiles que tu sèmes dans le remords des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens. Pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien, thank you, Satan. Pour le prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du Château Margaux. Pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croix ni rien, sauf pour la frime un chien, croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Thank you, Satan. Pour le péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour l'ennui qui va paraître au coin des lits où tu n'es plus. Pour les ballots que tu fais paître dans le pré comme des moutons. Pour ton honneur à ne paraître jamais à la télévision. Thank you, Satan. Pour tout cela, et plus encore pour la solitude des rois, le rire des têtes de mort, le moyen de tourner la loi, et qu'on ne me fasse point taire, et que je chante pour ton bien, dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, Satan.
Comme une fille, la ruse déshabille, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles, quand le sang y coule, la mort y roucoule, une rose dans la gueule. Comme une fille qui a les yeux qui brillent et met ses grenades sur la barricade, la rue a ses charmes et les flics en armes les prennent dans la tronche. Paris ou Nantes, les rues sont patientes jusqu'à la nuit blême des pavés qu'on sème, quand le sang y gerce et que la mort y berce le passant qui bronche. Comme une fille, la ruse déshabille, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles, quand le sang y coule, la mort y roucoule, une rose dans la gueule.
Retrouve donc Léo Ferré dans l'après-guerre.
Dans les... à Paris en 1946. Ouais.
Voilà, et c'est un peu les années de galère, on peut dire, ces années.
Ça va durer au moins 10 ans, avec les petits cabarets, la recherche de chanteurs pour prendre ses textes, et puis il chantera lui-même, comme beaucoup d'ailleurs, dans des cabarets où on l'écoutait ou on l'écoutait pas, où il y avait très peu de monde. Mais enfin, c'était aussi la grande époque où les cabarets fleurissaient partout à Paris.
Il vit avec Odette, donc, dont on a parlé,
à Saint-Geneviève-des-Bois. Voilà. Ouais. Et puis la rencontre le 6 janvier 1950 dans un bar à Saint-Germain, le bar Bac, BAC. L'épouse de Georges Arnaud, vous vous souvenez de ce film, c'était Le Salaire de la Peur. Ce cinéaste avait une épouse qui était amie avec Madeleine et qui, ce soir-là, la présente à Léo dans ce bar. Et c'est le coup de foudre instantané, comme tout coup de foudre. Et ça les conduira au mariage en 1952, donc deuxième mariage pour Ferré. Vous vous souvenez qu'il disait surtout ne te marie pas, ne vote pas. Il n'a pas voté, mais il s'est marié trois fois.
Ouais. Et donc, elle lui apporte, enfin, elle va jouer un rôle important sur le plan artistique, Madeleine, parce qu'elle va lui apporter une sorte de regard critique sur sa façon de travailler la scène, je crois.
C'était une intellectuelle, comme il dira parfois, beaucoup plus tard, avec une pointe de dépit. Et elle va l'aider, elle va être partout, comme faisaient aussi les compagnes des chanteurs. Par exemple, Paulette Cossimon, qui a accompagné Jean Roger partout, à la scène, à la ville, sur les poursuites pour les enregistrements. Et Madeleine jouait ce rôle-là. Elle l'a habillé pour la scène, elle l'a mis en scène un peu, parce que Léo apparaissait très, très grinçant, très sardonique dans les cabarets de Saint-Germain, ou Sartre en particulier, allait le voir. Bon, elle a essayé de le rendre plus abordable, plus aimable en scène.
L'autre aspect qui est important dans cette époque, c'est que Léo Ferré commence à mettre des poètes en musique, et d'ailleurs il se rapproche aussi des surréalistes, et d'André Breton en particulier.
Oui, le hasard fait qu'il rencontre Breton, il rencontre Benjamin Perret, ils deviennent amis. Il est très très ému par la voix et la présence et la fréquentation de Breton et des surréalistes, jusqu'au clash, inévitablement, parce que les personnalités sont telles que à un moment donné, ça frotte comme.
Et un jour, Breton lui fait une critique un petit peu insupportable d'un de ses textes, je crois.
Il lui demande, Léo lui demande de préfacer Poète vos papiers, hein, qui est un recueil de textes qu'il envisage de publier à la table ronde. Et Breton l'accepte avec joie, et il est chez les Ferré dans l'Eure. On est dans la campagne dans l'Eure, il va dormir dans une chambre, il dira plus tard, j'ai dormi dans une cerise, André Breton. Mais enfin, quand il se réveille le matin, quand il se lève, il n'a pas la tête des grands jours. Et il dit à Léo, en danger de mort, ne faites jamais paraître ce livre.
Alors, même bon, en danger de mort.
Ouais, ouais. Donc Léo s'est longtemps interrogé, bon, il en parlait encore 30 ans après, hein, sur ce que ça voulait dire. Il pensait que Breton n'avait pas trouvé la forme classique, la versification classique, alors qu'il était surréaliste dans l'inspiration, mais que dans la forme, celle de Ferré l'avait gêné. Mais enfin, on ne sait pas, parce qu'il y a chez Ferré, il y a un mélange des formes au niveau stylistique.
Puis il va quand même signer, il va commencer, enfin sa carrière va commencer à se mettre en route avec une signature au Champ du Monde, qui est la grande boîte de disques à l'époque sous l'obédience du Parti communiste, bon, on peut le dire.
Enfin, en 53, là.
En 53, puis plus un peu bientôt avec Odéon aussi.
Oui, donc là, Odéon, il signe, il va faire 7 albums. Hein. Et puis là, ça démarre quand même, puisqu'il va être chez Odéon de 53 à 58, et en 58, il fait l'Olympia, il a fait Bobino, dès 55, l'Olympia, 58, Bobino. Bon, ça, c'est pas. Enfin, il est en vedette. Hein, mais, il a besoin, Madeleine l'aide beaucoup, parce que elle va jusqu'à aller sur scène pour annoncer parfois les poètes mis en musique, ou dans un texte, on la voit sur le coin de la scène quand il chante une chanson dédiée à la Révolution, la gueuse, au peuple de la Révolution. Elle est dans un coin comme si elle filait la laine. Bon, il y a des petites tentatives comme ça, mais tout le monde s'accorde pour dire, surtout les gens qui l'ont côtoyée, qu'elle a beaucoup apporté quand même pour la professionnalisation de Léo.
Et on va dire aussi qu'il rentre à la fin de cette période dans l'écurie Barclay. Peut-être j'ai sauté une étape, mais
oui, parce
qu'auparavant,
peut-être on parle auparavant,
des poètes.
Voilà, c'est ça. Ah, oui. Donc on a vu qu'il avait créé un oratorio pour la chanson du Mallarmé d'Apollinaire, et il se met à, parce qu'il a toujours lu les poètes, et il se met au piano, et il ouvre les Fleurs du Mal, par exemple. Et il s'essaie à mettre en musique. Et puis, un jour, il assiste à un concert de Duparc, hein, qui était un chanteur...
Enfin, plutôt un concert où on chantait Duparc, et là, scandale.
Le chanteur, c'était Charles Panzera, un grand chanteur ténor, quoi. Et sur une musique de Duparc, il entend l'invitation au voyage.
Et là, scandale,
parce que il y a une strophe qui manque. La strophe qui dit « des meubles luisants, polis par les ans ». Et cette strophe-là a été squeezée, comme on ne disait pas à l'époque. Et Léo, il était tout seul, il tient beaucoup à expliquer ça, parce que pour dire qu'il faisait... c'est pas de la frime, quoi, il se rendait pas intéressant. Tout seul, il se dit « moi, je vais mettre en musique l'invitation au voyage, et je sauve les meubles ». Et c'est ce qu'il a fait, et ça a pas mal marché, puisqu'il y a un disque consacré à Baudelaire, le premier, 57, qui le fera bien connaître chez voilà. les amateurs de poésie et de chansons.
Et donc on peut sauter donc à l'étape suivante qui est le fait qu'il rentre chez Barclay en 60, je crois qu'il va y rester longtemps, il va rester 14 ans je crois, non
jusqu'en oui, 74. Oui.
Et on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vers la fin de cette époque que se produit l'accrochage entre Barclay et Ferré au sujet de, tu peux dire ça, nous raconter cette histoire rapidement.
Oui, rapidement. Mais entre temps, il y a eu des succès, hein. Il y a eu Paris Cana, il y a eu Paname, qui ont été des grands succès chantés par Gréco, par Catherine Sauvage, qui était une sorte de Ferré au féminin. Donc là, c'était la fin des années 50, et puis les années 60, Ferré est une vedette, ce qui fait que Barclay, qui a dans son écurie, qui a Aznavour, qui a Brel, qui aura Nougaro, puis qui aura les Yéyés, puisque Barclay importera le micro-sillon, le 45 tours en France, venant des États-Unis. Donc Barclay, c'est vraiment là où il faut être. Il fera tout pour avoir Ferré, et que Ferré a du succès. C'est pour ça qu'il peut acheter des maisons, déjà. Et il achète une île en vendant les droits d'une centaine de titres. Donc, bon, déjà, dans les années 60, enfin, déjà, il est monté en 46, hein, donc il a fallu le temps, quoi. Ça paraît inconcevable aujourd'hui, quoi. Donc, Ferré rentre chez Barclay, et puis, un jour, clash, là aussi, inévitable, Piaf meurt, Barclay lance Mireille Mathieu, en faisant penser que c'est la nouvelle Piaf, et Léo fait une chanson qu'il dédie à une chanteuse morte, et où il dit, en gros, Piaf, elle pouvait chanter le beau thème, c'était extraordinaire, et on a voulu l'imiter, et Stark a tout fait pour, mais tout ça, c'est du showbiz, et c'est pour plaire à Cocatrix, quoi. En gros, je résume. Ce disque est pressé, il est enregistré, il est pressé chez Barclay, alors que Mireille Mathieu est aussi chez Barclay. Et quand un directeur artistique intervient pour signaler le cas à l'homme au cigare, Barclay le fait retirer, et fait détruire ce qu'il peut récupérer. Et donc, Ferré fait un procès à Barclay. Ça se passe assez mal au tribunal, parce que d'abord le juge commence à l'interpeller, enfin, et Ferré prend la parole tout de suite, et le juge lui dit, monsieur, vous parlerez quand on vous donnera la parole. Et Léo aurait eu cette parole célèbre, dans le milieu des ferréistes. Il dit, moi, monsieur, on ne me donne pas la parole, je la prends. Et donc, il a perdu. Et cette chanson, il la rechantera dans les années 80, et on ne la connaîtra vraiment, l'original, sur CD, que dans une intégrale qui sera publiée longtemps après sa mort.
Les amants tristes.
Je t'aimerai sur la chaussée et son collant. Ton goudron, j'y prendrai le suc de mes cavales. J'aurai l'air d'un roi nègre. Tu mettras à la moelle où je glouglouterai repu ton sentiment. Ton sentiment a le goût de gazelle. Ton ventre n'est qu'un champ de lavande à midi et mon couteau qui grisse en y fauchant ma mie et d'un faucheur distrait qui s'éploie sous ton aile. Il est au féminin, ton sentiment. Il est comme ces demoiselles qui en ont à revendre et qui le vendent bien. Ton sentiment me fait gonfler mes voiles d'ange. Ton sentiment me fait du bien au sentiment. Et les fleurs du pavé poussent des cris étranges, moi qui viens du pavé vers toi et me dressant. Et moi, je ne te prends que ce que je te dois. Si je n'avais que du sentiment à te filer, il y a bien longtemps que tu m'aurais banni de ton fief, de ton cul, de ta loi, de tes langes. Il y a bien longtemps que tu te serais cassé. Mais tu m'as réveillé, et tu nous as tirés de notre mort quotidienne. Et puis toi, tu te meurs dans la rue, à midi, sous des flopées de soleil mou, et de ces mecs qui te prennent dans les mirettes, et qui te mirent bien dans l'os, des fois que leur labo pourrait leur renvoyer subito ta dégaine, grandeur naturliche, à la mesure de leur page. Des fois, le soir, ils te prendraient impunément, ils s'empaquetteraient de toi, de ton devoir de grue, comme dans un journal. Au fond, t'es un journal.
Tu sors souvent, la mère. C'est pas bon pour ta voix. Tu devrais mettre un pull, t'as bien assez de moutons, et puis prendre ton carrosse et puis rentrer chez toi. 300 000 chevaux là-bas disent ton nom. Tu sors souvent, la mer, fais gaffe aux inconnus, avec leurs pipes en l'air qui canardent le ciel et leurs sarraux de fer et leurs toiles perdues. Tu sors souvent, la mer, à ton âge, il faut pas. Tu mets ta vague à l'air comme une fille dans les bois et ça donne des idées à ceux qui n'en ont pas. Ça se met une casquette et ça se fout dans tes bras. Tu sors souvent, la mer, comme les filles de la rue qui montent sans raison avec un inconnu parce que c'est l'usage et qu'elles ont 16 ans et qu'on peut faire naufrage sans avoir toutes ses dents. Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet. Dès la tombée du jour, ça boucle ses paquets. Un voyage au long cours dans la rue Réaumur, c'est 5 à 6 minutes. Et encore, c'est pas sûr. Tu sors souvent la mer, tu te fais les yeux bleus, t'y mets du vert parfois pour voir tes amoureux qui regardent le creux que fait la marée, qui des fois s'y confondent en croyant se marrer. Tu sors souvent la mer, mais t'as pas d'époux. Dans ta maison de dune, tu nous lèches la joue et tu repars là-bas comme un rêve insensé qui toujours recommence et toujours se défait. Ça se fout des chapeaux, des bijoux, des chagrins. Ça sort au syndicat, au ciné, crois-moi. Ça sort et puis ça rentre faire des mômes à l'État. Tu sors souvent, la mère. Emmène-moi avec toi.
Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia! Un coup de sordine, deux sous de combine et t'avais ton rata, tandis que toi tu joues à l'homme. Tu me l'as fait au cousu d'or, mais t'es qu'une pomme, car les vrais hommes ça fait un petit effort. Méfie! La mafia se radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche. T'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourriche, et te v'là riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi, tu prends des poses. T'es même pas dans le bottin. Ça indispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Tant pis si tu meurs dans la dèche. Vaut mieux crever dans la mafia. Avec une crèche, dans une calèche et des croque-muchons en soie. Tandis que toi, tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as cabaret ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglish ces conneries qui plaisent aux riches, alors tu seras l'affiche de Cocatrix, de Cocatrix.
Merci, c'est la fin de la première heure de cette émission. Merci d'être venus nombreux. Je dois remercier mes camarades. Joël Jacobi, Yves Flanque, Patrick Vendrin, Daniel Villanova, Christian Boisson, Marc Pastor qui se cache dans un coin que j'ai failli oublier, et puis Claude évidemment. Donc merci aussi à l'association des Amis du Grain des Mots, pardon, d'avoir permis avec la librairie la réalisation de cette émission. Voilà, qu'on ait ça. Merci.